Terrorist networks, terrorist states.
Et non, nous ne sommes toujours pas des terroristes. Bonjour Pascal.
Bonjour Gilles, bonjour à tous et à tous.
Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez sur les ondes de Divergence FM ou sur les ondes de Radio Escapade ou de Radio Larzac. Divergence numérique, 160e émission, au sommaire de laquelle, eh bien, ce sera la semaine 8 pour la revue de presse de l'april. On parlera aussi de ParleTrack, un outil citoyen qui rend lisible nos eurodéputés et qui a besoin d'un soutien financier massif de tout le monde. Et puis, on a deux invités en plateau aujourd'hui. C'est Jean-François Ferry. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Et puis, c'est son acolyte qui s'appelle, lui...
Florian Henry.
Et ben voilà, Florian Henry, j'avais perdu ma ligne. Ils sont là pour nous parler d'un dev camp d'Olibar qui aura lieu bien au mois d'avril. Ce sera du 19 au 21 avril chez nos amis de Kawenga, sans oublier les agendas du libre et puis de la musique.
De la musique avec les Minouches Nawak, avec l'album Mauvaise Graine, sorti en 2007.
Voilà, un groupe d'ailleurs qui a disparu depuis.
Qui a disparu, oui. Certains membres ont fait, sont étudiants, étaient étudiants, donc ils sont partis, ils se sont un peu éclatés.
Et tout de suite, on démarre sans plus attendre avec la revue de presse de l'April.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire
de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de poutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 8, année 2013. Salut Manu.
Salut Luc.
Le sommaire.
Alors on a 8 articles cette semaine. On va vous parler de DRM, de Nior, de Lescure, les technologies de l'information à Berlin. On va vous parler du gouvernement socialiste et du domaine public, le modèle ouvert, le modèle fermé, 10 propositions pour commencer dans le libre, et pour finir, libre en fait, version 2013.
Actualité.com, DRM, 3 libraires pour renverser le monopole d'Amazon, un article de Nicolas Garry.
Et oui, ça rue dans les brancards, et il y a encore des actions en justice qui sont en train d'être déposées aux États-Unis.
Et oui, contre le Kindle, contre Amazon, et donc une plateforme qui est bourrée de DRM.
Donc en gros, si je comprends bien, c'est un monopole sur le fait que, quand vous êtes éditeur, vous vendez des livres, ces livres ne peuvent être lus et utilisés que sur certaines plateformes matérielles à cause des DRM qui sont dessus.
Donc dans toute la démarche, hein, il y a un petit mélange entre ce qui est de l'ordre du format propriétaire utilisé par le Kindle et ce qui est de l'ordre du DRM. Et il semblerait, en tout cas ce qu'ils expliquent, c'est que justement la procédure qui a été lancée vise à attaquer un peu tout l'ensemble parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas attaquer directement le format propriétaire qui va empêcher de lire d'autres e-books sur du Kindle ou de lire les e-books d'Amazon sur d'autres liseuses que la Kindle. Et donc ils utilisent en fait des biais juridiques pour essayer de casser ce système verrouillé.
Alors de ce que je comprends dans l'article, il parle d'interopérabilité, un sujet dont on a beaucoup parlé à cause de VLC et de la DOPI, hein, on ne va pas revenir dessus. Mais là, il est question d'interopérabilité parce que justement, il faudrait pouvoir fonctionner sur plusieurs périphériques. Et Amazon, eux, ils se défendent. Si, ça fonctionne bien sur plusieurs périphériques tant que vous installez les applications Amazon qui vont bien.
Voilà, et le corollaire de ce système, c'est que ça permet à quelques éditeurs de passer des accords avec Amazon. Et donc, Amazon va payer moins cher ses livres que les autres éditeurs. Donc là, pour le coup, les libraires protestent parce que c'est une concurrence qu'ils considèrent comme déloyale. Et l'effet de masse, le côté réseau d'Amazon qui est considérable, leur permet de dégager la concurrence vraiment sur des questions de contrôle du prix. Donc chez nous, c'est très différent puisqu'on a une loi qui encadre le prix des livres. Donc c'est des choses qui ne seraient pas possibles ou en tout cas très compliquées à mettre en œuvre dans ce cadre-là. Mais en tout cas, aux États-Unis, voilà, ça montre tous les dangers qu'il peut y avoir à avoir des plateformes fermées. C'est que ça commence à permettre des accords qui peuvent complètement rejeter une partie des acteurs économiques.
Lepetiteconomiste.com, New York Numérique accueillera Richard Stallman le 19 mars, un article de la rédaction.
Donc nouveau site, donc c'est un journal de l'économie locale et régionale, version Poitou-Charentes, parce que New York c'est dans le Poitou-Charentes, et New York va faire une super action le 19 mars.
Oui, alors il y aura Richard Stallman qui sera là, mais il y a plein d'autres choses qui vont se passer.
Parce que Richard Stallman vient notamment.
Oui, c'était un déclencheur, dit l'article. Et il va y avoir beaucoup de rencontres, de discussions, etc. autour de l'informatique. Il faut savoir que New York, c'est un peu le pays de l'assurance. Il y a beaucoup
et de la banque. Hein.
Et de la banque. Et donc, il y a plein d'informaticiens qui travaillent là-bas pour justement tous les services informatiques des assurances et des banques. Et donc, bon, on peut se dire que c'est un petit peu perdu dans la campagne et tout ça. Mais non, il y a vraiment une grosse activité informatique.
Ouais, on a rencontré le Gibul qui nous en a parlé un petit peu tout ça. C'est un Gibul de là-bas.
Qui, ça
alors c'est Gatine et Bocage, utilisateurs de logiciels libres. Donc des gens vraiment intéressants. Ils nous ont expliqué que voilà, justement, Stallman qui arrive, ça fait un gros remue-ménage. Au début, ils avaient prévu une petite sable. À peine quelques centaines de personnes, et là ils sont venus, ils sont partis sur des trucs à 4000 personnes.
Ils ont déjà 1300 inscriptions.
Voilà, c'est considérable. Ils ont plein d'entreprises qui sont constituées pour venir faire des présentations autour. Et ce qui devait être juste une présentation qui aurait peut-être duré une heure au début, ça se transforme en un gros truc de 3 voire 4 heures.
Ouais, avec le conseil général qui s'est mis dans le coup pour donner les moyens. Donc voilà le signe que cette région où il y a beaucoup d'activités informatiques avait besoin, en tout cas, qu'il y avait de la demande pour avoir ce genre de choses.
En tout cas, je sais qu'ils sont très dynamiques. Ils font déjà pas mal de trucs avec du libre. Faut qu'on aille les aider, notamment avec un catalogue du logiciel libre. Je sais qu'il y a des attentes.
Écran, l'escure, les positions du missionnaire, un article de Sofiane Fanen.
Ouais, qu'est-ce qui se marre bien avec le titre,
hein ? Oui, donc un gros gag. Donc ça fait un petit bilan sur la mission de l'escure. Donc on le rappelle, Pierre Lescure a été chargé par le gouvernement de consulter du monde, tout ça, pour faire des propositions.
Oui, rien de tel qu'un gros patron de l'audiovisuel pour venir vous aider.
Voilà, le gouvernement précédent avait fait la même chose avec Oliven. Et donc les gouvernements se succèdent, mais les méthodes restent les mêmes. Et donc voilà, cet article est un bilan sur ce que va proposer, a priori, la commission Lescure.
Donc de ce que je vois, il y a 4 points. En gros, ils vont enlever le côté restrictif de la Hadopi, peut-être mettre un PV.
Oui, c'est quelque chose qui reste, ce qui serait 140 euros au troisième avertissement. Ce n'est pas encore décidé, mais ce n'est pas exclu non plus.
Non, c'est en cours. Mettre plus d'offres légales, bon.
Et oui, il y a un truc qui est évoqué, et j'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière, c'est valoriser les Creative Commons. Donc Creative Commons, ce sont ces licences à géométrie variable, hein, dont certaines sont libres, et qui permettent de mettre ça sur de l'information en général, hein, des œuvres artistiques par exemple, ou autre chose, ou même du code. Mais ça, c'est surtout utilisé pour des œuvres. Et donc, valoriser, on se demande ce qu'il entend par là. Et
on espère qu'il ne va pas faire payer.
Oui. Mais en tout cas, la démarche a l'air pas mal. Bon, le problème, c'est que l'article est très large, hein, et très, très généraliste. Donc, c'est difficile de faire des déductions à partir de ça. Mais voilà, il dit que, bon, en face, et ça rejoint l'article précédent, où il précise qu'en fait, il y a des gros réseaux qui se mettent en place, de type celui d'Amazon, Google, etc. Et que c'est intéressant de mettre en œuvre des moyens de sortir de ces réseaux-là. Et les Creative Commons, les licences libres, pour lui, en tout cas, certaines de ces licences lui semblent utiles à ça. Donc je pense qu'il y a peut-être, j'espère, une réflexion assez profonde là-dessus. On verra bien.
Alors, juste pour terminer sur cet article, les deux autres points, la chronologie des médias, le fait que ça sorte à certaines vitesses dans certains médias.
Voilà, et avec la réduction des prix, on sait que...
Voilà, dans les cinémas, si vous sortez des petits films indépendants, vous avez peut-être le droit de faire plus vite que les gros trucs. La copie privée, il serait peut-être question de la virer. C'est le fait que vous payez sur des supports numériques quand vous les achetez, parce que, soi-disant, vous pourriez faire du piratage avec.
Voilà, là-dessus, ça peut effectivement bouger, parce que d'un côté, il y a les ayants droit qui poussent très fort, de l'autre, il y a les industriels qui poussent très fort, et on sait que la voie économique a toujours beaucoup plus de poids que celle des associations.
Alors, mauvaise nouvelle, pas question de dépénaliser les échanges quand ils ne sont pas à des fins commerciales, parce que ça, c'est quelque chose qui est assez attendu dans notre milieu, et bon, bah, là, il semblerait que ce ne soit pas vraiment le cas, on n'est pas étonné.
Bulletins électroniques, développer les technologies de l'information libre à Berlin, un article de la rédaction.
Donc là aussi, c'est un nouveau site, donc il s'agit d'un service des affaires étrangères. Il nous monte des infos à propos de Berlin. Il y a une organisation et les administrations locales qui sont en train de faire des accords.
Effectivement, donc un accord de coopération avec la mise en avant de l'intérêt du libre. Bon, l'article parle beaucoup d'open source, mais donc de l'intérêt du libre. Et donc dans la foulée, un gros événement qui est en train de se préparer autour de ça du côté de Berlin.
Qui s'appellerait Meet and Greet.
Et oui. Et donc un exemple à suivre, on espère, pour ce qui peut se faire chez nous. Actualité.com encore, BNF, un gouvernement socialiste, restreint le domaine public, un article de Claire Lestrat et Olivier Michel.
Donc un assez long article qui aborde le sujet de manière assez originale.
Oui, on revient sur cette question de la numérisation des livres, là, l'accord qui a été passé, enfin le contrat qui a été passé en partenariat public-privé entre la BNF et des sociétés prestataires, donc dont on a parlé ces dernières semaines.
Voilà, et qui va donner un accord d'exclusivité pendant 10 ans à ces sociétés-là.
Voilà, donc l'article est engagé, hein, très clairement. C'est un article écrit par deux universitaires. Et à la mode universitaire, ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils affirment quelque chose, il y a un lien qui prouve ce qu'ils disent. Donc voilà, c'est très carré. Et voilà, c'est intelligemment écrit et derrière, on sent qu'il y a de la matière.
Alors moi, ce que j'apprécie, c'est la façon d'aborder où il remonte un peu dans l'histoire et il compare ça aux commons, les communs, les parties communes des villages anglais qui ont été piquées par les grands propriétaires.
Appelé l'enclosure, donc, qui était en fait là. La mainmise sur des terrains qui étaient communs et qui ont été appropriés, donc une sorte de vol au collectif. Donc là, on est sur quelque chose d'assez différent parce que l'information, elle n'a pas de rareté, surtout si elle est numérique.
Oui, mais on crée de la rareté avec le droit d'auteur.
Là, pour le coup, on en crée très volontiers et en restreignant la diffusion des œuvres numérisées.
En tout cas, une analogie à aller creuser. Moi, j'aime bien aller jeter un œil. À l'actualité, ils ont des bons articles.
Voilà, celui-là est vraiment très très bon.
New Yorker, et c'est le modèle ouvert qui l'emporte à la fin, ça dépend. Un article de Tim Wu, traduit donc par Framablog.
Voilà, donc maintenant je présente plutôt le site d'origine, mais c'est le Framablog qui nous le présente aujourd'hui et sur lequel vous pourrez aller le lire en français.
Ça fait partie de tous ces articles de très bonne qualité qui sont traduits par le Framablog. Et celui-là vraiment est très très bon. Il revient sur la notion d'ouverture qui est mise en avant très très souvent.
Mais d'ouverture dans les entreprises.
Oui, mais en grande partie, mais également par rapport aux outils qu'on peut utiliser. Il parle par exemple de l'iPhone ou d'autres smartphones. Donc ça touche également ce que les gens peuvent utiliser dans leur vie de tous les jours. Donc c'est pas uniquement le côté entreprise. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une idée qu'on entend assez régulièrement et qui nous plaît pas trop. C'est dire le libre a gagné en gros parce que de toute façon le modèle est meilleur et puis il n'y a plus d'enjeu là-dessus. Bah là déjà il rentre vraiment dans le détail avec une analyse assez intéressante sur les différentes formes d'ouverture.
Qu'est-ce que ça veut dire historique, hein,
et avec un historique. Effectivement. Donc sa conclusion, c'est que bon, elle est quand même plutôt positive. Hein. C'est-à-dire qu'à moins d'avoir un génie
comme Steve Jobs,
Le modèle fermé effectivement assez peu de chances de survivre. Oui, il y a une chose dont il parle pas en revanche, c'est que par le lobbying, ce genre d'entreprise et d'autres peuvent tout à fait modifier le droit pour que justement leur modèle propriétaire soit tout à fait viable et que le libre se retrouve coincé. On avait eu des trucs comme ACTA par exemple, sur lesquels on s'est beaucoup battu, et d'autres lois, il y en a tout un paquet, et ça il n'en parle pas dans l'article, et à mon sens c'est quand même un manque important.
Venez à l'April, hein, justement pour défendre ces questions-là, il n'y a rien de tel.
Opensource.com, 10 propositions pour débuter dans le libre sans avoir rien à coder, un article de Jason Ibets, donc toujours traduit par le Framablog.
Et oui, encore et toujours. Et puis bah là, on revient sur les fondamentaux. Comment vous faites, surtout si vous n'êtes pas un codeur, et oui, il y en a plein, pour faire quand même du libre.
Donc toute une série de suggestions, de la plus simple, du genre utiliser des logiciels libres, au plus complexe, comme aller s'engager dans un projet. Alors moi, je serais quand même curieux de savoir, quand on s'engage dans un projet libre sans être développeur, le poids qu'on peut avoir sur les prises de décision. Est-ce que... Comme ça, vu de nez, je pense que, d'une façon générale, le développeur de logiciels libres, il a tendance à faire un logiciel qui correspond à ses besoins. C'est bien souvent le truc. Hein. Je sais plus, quelqu'un avait dit qu'un logiciel libre, ça commence par un développeur que ça gratte quelque part, donc il va faire quelque chose qui lui correspond. C'est pour ça qu'on a souvent des logiciels qui sont assez pointus. Donc même sur des trucs, je pense à Inkscape par exemple, qui est un logiciel de graphisme vectoriel, qui est très bien, tout à fait utilisable, mais avec une interface qui peut nécessiter un petit peu d'apprentissage, très efficace, mais qui nécessite un peu d'apprentissage. Et on a ce côté un petit peu élitiste assez souvent.
Peut-être, effectivement, pour commencer quelque chose, moi je dirais plutôt la rareté. Et la rareté, effectivement, sur un programme, un logiciel qui commence, le programmeur, on en a pas mal besoin. Mais sur des projets qui sont déjà en place, les gens qui font de la documentation, les créatifs qui vont rajouter des choses jolies, agréables à utiliser, ça, les développeurs, ils ne savent pas forcément bien le faire, loin de là. Et là, la rareté va vous donner du poids. Et si vous êtes capable de mettre en forme, vous pourrez être vraiment utile et apprécié. Donc certes, le code c'est important, mais je pense quand même que y a d'autres choses qu'il faut regarder quand même à un moment donné.
Voilà, donc un petit article sympa, reste assez superficiel sur ces questions d'enjeux, mais bon, c'est pas tellement l'objectif.
La Ligue de l'enseignement, Libre en Fête 2013, par Denis Lebioda.
Donc on reparle de Libre en Fête parce que on est rentré dedans. C'est la 13e saison, donc c'est l'April qui a lancé ça il y a 13 ans. Donc il s'agit de faire la fête auto libre.
Et oui, donc on en a parlé la semaine dernière, on en reparle. C'est une reprise donc dans cet article-là qui est une invitation à organiser des choses. Tout le monde peut organiser quelque chose dans le cadre de Libre en Fête et dire coucou, nous on fait ça. Donc c'est une présentation de la démarche. Allez sur Libre en Fête pour voir ce qui se fait à côté de chez vous. Si vous êtes dans le libre, n'hésitez pas à proposer quelque chose. Ça peut aller d'une démonstration de logiciel. Ça peut être relativement simple. Vous n'avez pas besoin de faire des trucs très compliqués.
Et ça se met dans un circuit, dans quelque chose qui va vous permettre de communiquer plus facilement. Parce que Libre en Fête, c'est fait pour ça. Bon, à la semaine prochaine.
Oui, salut. Au revoir tout le monde.
Et voilà, c'est ainsi que se referme cette revue de presse qui a un générique quelque peu écourté, ma foi. On va enchaîner avec de la musique car on a un programme super chargé. Donc une sélection musicale, un brin posthume aujourd'hui.
Oui, avec Minouche Nawak, un groupe mêlant ska, punk et metal, le tout soutenu par des paroles fortement engagées. Un duo basse, batterie, hypnotique, renforcé par la guitare à la rythmique acérée, emporte le spectateur dans un monde où le rire se fait jaune et nerveux. Le chant a allé chercher du côté du trash et du hip-hop à scène ses paroles dénonciatrices, alors que les cuivres amènent la fièvre qu'il manquait à ce combo pour mettre le feu aux poudres.
Voilà, depuis 2 ans, le groupe effectue des concerts avec Julien à la batterie, Vincent à la basse, Frédéric à la guitare, Tristan au chant, David au saxophone et Alexis au trombone pour aller réveiller les foules au son de leur musique. Leur musique qui réveille plus trop les foules avec, comme on l'a dit, puisque le groupe, on va dire, est...
Et le groupe s'est arrêté. Voilà, Nono et Tristan s'étant exilés pour leurs études. Qui s'arrête plus
sur leurs études.
Oui, j'espère. Donc ça n'arrête pas tout à fait puisque les 4 restants, Aka, David, Jules et Fred, remontent une nouvelle formation dans un style différent. Voilà.
Eh bien, nous resterons à l'écoute. On écoute Serial Killer.
Sans râle, on a un meurtre sur la 123. Envoyez toutes les unités sur la ligne du crime.
Son destin bascula, le mort l'emmena, et on le revit pas. Un dernier pour la route, il dit que ça fait pas mal, mais après ça tu doutes, ça sera plutôt fatal. Le voilà dans la rue, c'est plus comment on est venu. Si je monte avec ce gars qui me fait des signes sympas, le black qui tire sa graisse et rentre dans la petite caisse. Au bout du chemin la mort qui résonne et l'endort. Du putain que le reforme, pas juste pour la forme. Le black dans le mer, pas de chance, mais c'est l'ancienne. J'ai statué sur ton sort, pas la peine de courir, je sens que tu vas mourir, car je suis un tueur. Un enfoiré tueur, je suis le serial killer. Thank you.
le sort d'un loup affamé. On désavoue les faits mais déjà accomplis. On s'illuse grâce aux lois que l'on a franchies. On franchit le pas mais l'on reste posté. Comme une lettre à la poste, on peut tout faire passer. Que de passion, que d'excitation. La première fois n'était pas la meilleure. Ce crime là a une autre odeur. De sang, ma poix se vide, de joie, mon cœur s'enivre. De sang, ma poix se vide, de joie, mon cœur s'enivre.
Eh ben oui, ça déchire, hein.
Oui, et en plus, on peut retrouver les paroles sur leur site.
Voilà, on peut retrouver les paroles. Un petit coup de Jamin aurait bien fait l'affaire. Jamin est un logiciel libre qui permet de faire des masterings bien. Là, c'est un peu faiblard au niveau du mastering. La guitare est là, mais la voix, il est un petit peu loin derrière. Enfin bon, voilà, qui aime bien châtie bien. On va parler à présent de Parltrack, un outil citoyen qui rend lisible nos eurodéputés. C'était le 1er avril au Parlement européen que Stéphane Marsisque a fait cette présentation de
février,
cet outil.
Février.
Février, bien sûr. Que dit-il ? Et c'est Carsten Gerloff, le président de la FSFE, la Free Software Foundation Europe, qui fait une petite introduction. Pour planter le décor, Parltrack est un outil important, très important pour des organisations comme par exemple la FSFE, car cela nous aide à avoir accès à ce qui se passe dans le Parlement sans être obligé de traîner ici tout le temps. Et ça nous fournit une base de données très importante sur les lois et les initiatives qui sont menées. Tout le monde ne l'utilise pas forcément, mais les organisations comme les nôtres, qui veulent influencer le politique et faire de meilleures lois, comptent vraiment là-dessus. Donc Steph a lancé une campagne de financement et vas-y, fais ton speech, 3 minutes. Ok, je fais donc mon discours en 3 minutes. Peu de gens ont en fait besoin de Parltrack dans leur vie de tous les jours s'ils ne sont pas spécialement impliqués dans l'action politique au niveau européen. Parltrack se situe dans la lignée des nombreux outils de gouvernance et de données ouvertes que l'on peut trouver un peu partout en Europe, en tout cas dans les États les plus démocratiques, il y en a. Et l'idée, là, avec Parltrack, c'est en fait d'avoir accès aux données que le Parlement européen publie. Mais d'une façon qui est inaccessible aux gens qui n'ont pas les ressources. Par exemple, comme les agendas de réunions de comités sont publiés au format PDF. Et si quelques changements de ces agendas vous intéressent, vous devez télécharger ces PDF quotidiennement et vérifier les changements dans ces agendas, ok ? Et si vous êtes un activiste, vous n'aurez peut-être pas de temps pour cela ou de ressources pour cela. D'autres informations, comme les informations récentes dont vous avez besoin si vous êtes un activiste, comme avoir accès au Parlement européen, aux membres du Parlement, avoir une liste récente de qui est au Parlement, en fait. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais il y a une fluctuation assez importante de gens au sein du Parlement européen. Des gens qui vont et qui viennent, même parmi les membres du Parlement. Ils vont ici et là, ils changent leur... Peut-être que leur adresse email ne change pas, mais tout le reste change, en fait. Donc, avec Parltrack, ça c'est Parltrack. Laissez-moi vous présenter Parltrack. Alors, le design, c'est moi qui l'ai fait. Il est à chier. Merci, monsieur. En fait, c'est un des objectifs, d'améliorer le design. Et ces 2 dernières années, peut-être un peu plus, j'ai développé Parltrack. Et ça collecte 5 bases de données qui ne sont pas simplement collectées, elles sont agrégées, nettoyées et téléchargeables de plusieurs façons. Vous pouvez télécharger la base entière au format JSON et construire votre propre application avec ça ou l'explorer, en faire ce que vous voulez. Le tout est publié sous la licence ODBL V1, la Open Data License. Le code qui crée la base de données est en AGPL V3. Vous pouvez fabriquer vos propres outils, vous avez une API, donc si vous le voulez, vous pouvez simplement pointer vers un URL et mettre format JSON, et là vous avez le truc en format JSON. Puis vous pouvez écrire votre propre application Android si vous le voulez. Et quel genre de données avons-nous ? Nous avons en premier, le plus important, les dossiers, qui en fait, c'est les propositions de loi qui nous intéressent. C'est ce qu'on a en ce moment au Parlement européen. Ce sont tous les sujets actifs qui sont débattus. Et on a aussi quelques stats, des statistiques qui ne sont pas disponibles auprès du Parlement européen. Et on a aussi un calendrier qui dit ce qui va se passer dans les jours à venir. Donc la chose la plus importante pour nous, c'est en fait ce qui se passe au niveau de la Commission. Pourquoi c'est important? Parce qu'au niveau de la commission, on peut introduire des amendements. Et si vous apportez des amendements, eh bien, au moins, il y a une discussion sur les sujets qui comptent pour nous, même si les amendements ne sont pas votés. Et même s'ils sont votés, alors on peut regarder sur... après le vote, tous les membres ont voté, sauf pour la commission où ça n'est malheureusement pas publié, mais... Quoi qu'il en soit, la chose importante est de savoir quand introduire des données au niveau du Parlement européen, qu'est-ce qu'il en ressort, et d'être capable d'avoir une sorte de, d'évaluation de comment les choses se sont passées au niveau de la commission. L'autre chose qui est très importante à côté de la commission et du moment où on peut influencer la politique, c'est de regarder la partie sur les membres du Parlement. Les membres du Parlement sont vraiment intéressants, particulièrement si vous voulez faire pression. Vous avez besoin de savoir comment ils votent, ce qu'ils trouvent intéressant, quels sont les outils, les sujets qui les préoccupent. Vous savez, et pour ça, il est très utile d'avoir un bon profil de ces membres du Parlement. Cette liste est en fait triée par... selon le pouvoir que ces membres ont au sein du Parlement. Donc si vous regardez, par exemple, si vous voulez avoir une idée de à qui vous parlez, à qui vous devez parler ou téléphoner, alors Paltrack est très utile car vous avez toutes ces informations sur le pouvoir de telle ou telle personne et nous avons aussi des informations que vous ne trouverez pas ailleurs. Voilà déjà le résultat du data mining, par exemple. Dans ce cas, vous avez une liste de tous les dossiers desquels les membres du Parlement ont été en charge. Et même si cette information est publiée par le Parlement européen, vous ne l'avez pas sur une seule page. Donc, vous ne savez pas ce qui a jamais intéressé le gars. Si vous regardez cette page, je ne sais pas, propriété intellectuelle, application des lois, ça c'est un type de la propriété intellectuelle, je pense. Ok, rien qu'en regardant cette liste, on sait que ce type est un pro-propriété intellectuelle. Mais je peux vous montrer des gens qui s'intéressent à l'industrie de la pêche en Grèce, ou je peux vous dire qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'industrie automobile et qu'il y a des démocrates chrétiens du sud de l'Allemagne. Donc, avoir cette vue d'ensemble est... C'est un oxymore d'ailleurs. Quoi? Les démocrates chrétiens du sud de l'Allemagne qui s'intéressent à l'industrie automobile? Vraiment? Ce que je veux dire, c'est qu'ils le sont tous. Autre chose intéressante qu'on a, un ajout qui n'a que quelques mois, c'est que j'ai aussi libéré des amendements. Les amendements dont je parlais plus tôt, qui sont importants pour nous. Ils sont aussi publiés en PDF. Donc s'il y a un gars, peut-être Christian ou Amélia, ou quelqu'un qui introduise de bons amendements, peut-être une contribution de nous-mêmes, qui compte pour nous, et que nous voulons faire savoir qu'il y a un truc puissant qui est débattu au Parlement, on ne pourrait pas vraiment faire référence à ça, car c'est enterré dans des PDF, enterré au fond du site du Parlement européen. Donc plus besoin de faire ça, car vous avez tous ces amendements sur Paltrack, et en fait ils sont corrélables. Et ces amendements sont aussi intéressants si vous regardez un membre du Parlement et que vous voulez voir, avoir une idée de ce qui intéresse ce type. Encore, eh bien, vous pouvez voir dans les amendements quels sont les sujets sur lesquels il contribue. Et c'est vraiment d'un grand intérêt de voir, et aussi de voir en fait quels membres du Parlement, combien d'amendements ils introduisent. Vous voyez des gens qui sont plutôt hauts dans l'échelle du pouvoir et qui ne proposent aucun amendement. Et vous avez des jusqu'au boutistes comme Ole Schmidt qui a déposé 3000 amendements depuis le début de cette législature. C'est le leader of the pack. Combien d'assistants a-t-il épuisé dans la période? Je ne sais pas, mais je pense, et c'est assez fascinant de le savoir, qu'Amelia, Amelia Anderstotter, partie pirate suédoise, qui n'est en fonction que depuis un an, elle en est à, voyons voir, 500, je pense, donc elle est très occupée. Et si vous regardez, elle n'est que depuis un an au Parlement, ok? Et si vous regardez les dossiers dont elle s'est occupée, ou si vous regardez les amendements qu'elle a introduits, alors vous verrez que c'est une fille vraiment très travailleuse. Un an en fonction et elle a déjà 7 dossiers. Je pense que c'est déjà au-dessus de la moyenne en 7e législature. Et si vous regardez les amendements, elle en a déjà 470 dans ce temps très court. Et c'est une débutante, vous savez, elle est jeune, a commencé il y a un an, donc je pense qu'elle travaille vraiment dur, et elle a tout mon soutien et mon respect pour ça. Donc PARTRACK est juste une source unifiée de données agrégées qui a eu beaucoup d'utilisateurs comme des organisations pendant que nous battions contre ACTA. Toutes ces informations durant la campagne venaient de PARTRACK. Les gens envoyaient des emails, cette liste venait de moi. Les gens de la quadrature du net, ils ont leur propre outil qui s'appelle Mémopol, mémoire politique, qui est basé sur les données de PARTRACK. Donc je pense que PARTRACK peut ne pas être très utile pour plein de gens d'une façon directe, mais indirectement, je pense que c'est extrêmement important pour chacun d'entre nous. Je peux confirmer cela, car pour des activistes comme à la FSFE, c'est sur cela qu'on compte pour pouvoir faire le boulot. C'est ce sur quoi on se base pour savoir ce qu'il se passe, à qui nous devons parler, ce qu'il est advenu des propositions qu'on a faites, etc. Donc, juste pour terminer, mes 3 minutes sont bien dépassées. Le truc, c'est que tout ça a été développé par moi-même en tant que volontaire ces 2 dernières années et j'en suis détourné par le besoin de gagner ma vie ces temps-ci. Et donc, je n'ai pas assez de temps pour m'occuper de PARTRACK, sur lequel il y a beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai débuté une campagne de levée de fonds qui tourne sur Indieglobo. Et j'ai un but ambitieux qui est de financer l'année à venir. Et j'ai beaucoup d'idées et de choses qui ont besoin qu'on les fasse. Ça, c'est mon calendrier, ce que je veux faire, selon la quantité de temps que les gens vont m'acheter pour m'occuper de PARTRACK. Selon ce qu'il y aura, je pourrais faire beaucoup de choses. Là où ça deviendrait excitant, c'est à partir de 5 000 euros, où je pourrais refaire l'interface utilisateur. Je ne sais pas comment je vais pouvoir faire ça, car je suis nul pour les interfaces, mais j'ai quelques idées. Par exemple, souvent les institutions parlementaires ou les organisations similaires ont des designs plutôt jolis, et vu que c'est du GPL, peut-être que je peux copier ça. Une question ? Allez-y. Avez-vous pensé à partager le code et à encourager activement les autres à participer à votre travail ? Non, je ne suis pas très bon à ça, mais bien sûr le code est libre et accessible sur GitHub, mais je suis un libéral et je demande à des gens de faire des choses, mais voilà, j'avance et je fais mon truc. Je ne force pas les gens à faire des choses. Mais si quelqu'un vient et dit « j'aime vraiment ce truc et j'aimerais contribuer », bien sûr, j'en serais très heureux. J'ai à peu près 5 contributeurs pour le code déjà, et l'un d'eux est Eric en fait. Est-ce que je peux dire quelque chose ? Oui, s'il vous plaît, j'ai terminé. Oh, merci. C'est extrêmement important de soutenir PARTRACK. Et la raison en est que c'est une compétition pour l'institution elle-même. Je travaille au Parlement européen, j'ai des collègues ici, tout le monde, pratiquement tous les gens qui travaillent au Parlement, les assistants, les membres du Parlement, le staff comme moi, ils détestent l'interface web actuelle avec laquelle ils travaillent. Elle ne fait pas ce qu'on veut qu'elle fasse. Soit qu'on soit habitué au vieux système, soit que certaines solutions sont vraiment mauvaises. Il y a une insatisfaction continue de la façon dont les choses fonctionnent avec le web design ici au Parlement. Si il y avait un outil libre qui présente les mêmes informations qu'aujourd'hui d'une façon qui soit plus utile et efficace pour ceux qui travaillent à l'intérieur du Parlement, on pourrait attirer un groupement d'utilisateurs professionnels des informations parlementaires en dehors de l'institution et les faire travailler sur un outil public. Et s'ils contribuent à rendre les informations parlementaires accessibles et utiles de la façon dont ils ont envie, ils pourraient aussi enseigner aux gens de l'extérieur comment les choses fonctionnent dans le Parlement. Donc, si vous utilisez ceci, si vous contribuez à ceci, si vous aidez à rendre les données utilisables, ça attirera des gens comme moi, comme mes collègues, hors du monde fermé du Parlement, vers des applications et des services qui seront accessibles à tout le monde. Une remarque ? Oui ? J'avais déjà présenté PARTRACK il y a 1 ou 2 ici lors d'une réunion EFSUG similaire. Ce devait être la première ou la seconde. et il y avait le nombre membre du staff institutionnel du Parlement européen. Et un des types est venu vers moi et m'a dit c'est le rêve que j'ai voulu remplir depuis 20 ans, d'avoir toutes ces différentes bases de données, et vous les avez combinées. Vous l'avez fait de l'extérieur. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir... Les données du Parlement européen sont terribles, mais même les gens à l'intérieur, c'est si cloisonné dans des silos. Je pense que ça pourrait être bien plus utile, bien plus utile. À quelle fréquence est mise à jour les documents qu'on peut trouver quotidiennement? Oui, les mises à jour sont faites quotidiennement vers 1 ou 2 heures après minuit. Sauf s'il y a un événement très important, je veux planifier une mise à jour à tout moment. Comme quand il y a eu ACTA ou ce genre, là c'est très souvent. Je voulais juste vous lire le Parlement. Je veux dire,
il y a un soutien évident de la part des membres du Parlement et des partis politiques à l'intérieur du Parlement pour les logiciels libres. C'est pour cela que nous sommes ici, aujourd'hui, pour cette présentation de Libérer votre Android, car c'est un des membres du Parlement, un des vice-présidents du Parlement, Alexander Alvaro, qui est notre hôte. L'EFSUG existe, nous avons 4 parrains, 2 sont des Verts, 2 des Libéraux, et le Parlement a voté une résolution à son propre budget, appelée une décision de décharge, dans laquelle le Parlement dit « Nous agréons le budget et la façon dont l'argent a été dépensé, mais nous voulons avoir un rapport additionnel afin de pouvoir savoir ce qu'il advient de notre argent, ce qui est en fait l'argent des impôts. » Et sur le rapport de décharge 2010, le Parlement a décidé de demander à ses services internes un rapport complet sur la façon dont le projet de logiciel libre du Parlement avait été développé, au niveau de leur usage au Parlement, de l'interaction avec le citoyen et des passations de marché, et a suggéré d'étudier les obligations du Parlement selon la règle 103 dans le cadre des logiciels libres et des standards ouverts. Donc c'est une décision du Parlement de faire un rapport sur ses propres activités sur le logiciel libre et les standards ouverts. Le rapport n'est pas encore écrit, mais on espère bien qu'il le sera. Et une des raisons pour lesquelles on croit qu'il va être écrit, c'est parce que nous avons la preuve que des outils comme ParlTrack existent, qui aident la société et qui peuvent parfois nous permettre d'apporter un meilleur service pour des informations qui devraient être publiques dès le départ. Et dans cette référence que je viens de vous citer, cette règle 103, c'est la règle qui dit que le Parlement doit mener ses affaires dans la plus rigoureuse transparence. Ici, c'est le Parlement, pas le Conseil. Rien ici ne peut, ne devrait ou ne doit être secret, car la législation doit être ouverte, elle doit être débattue et comprise, et elle doit aller et venir, être amendée, mais elle doit être transparente et ouverte. Et cela ne peut arriver que s'il y a des outils qui supportent l'ouverture et la transparence. Les règles de procédure sont basées sur les traités et il y a une jurisprudence à la Cour européenne de justice qui maintient que la législation doit être transparente. Sans quoi c'est impensable. Et une des choses qu'on a apprises d'ACTA, c'est que ce n'est pas uniquement le contenu, mais aussi la procédure. Et ils essayaient de légiférer au travers d'une négociation marchande secrète. Nous savons tous que c'est mal. Mais pour changer ça et reprendre la bonne direction, si nous pouvons aider ParlTrack ou les choses similaires, nous aurons aussi le pouvoir de montrer que la transparence n'est pas seulement un joli mot, mais que c'est le pouvoir au peuple. Power to the people. Yes.
Yes. Et c'est sur cette phrase forte que voilà, ce petit extrait de ce qui s'était dit le 1er février 2013 au Parlement européen autour de Parltrack. Donc allez-y, soutenez Parltrack. Vous pourrez retrouver toutes les infos sur la page de cet article. La campagne, elle se trouve, elle, sur indiegogo.com. Et puis on peut du coup participer pour des contreparties plutôt sympathiques. Ça démarre à 5 euros et ça se termine à 1000 euros. Pour une vingtaine d'euros, vous pourrez avoir des stickers super cool, We Stopped ACTA. Et si vous voulez un t-shirt, ce sera quand même une centaine d'euros qu'il faudra donner. Mais c'est pour la bonne cause et pour permettre justement à Stéphane de continuer à travailler sur Parltrack. Il y a une petite vidéo avec non pas des chatons, ça c'est plutôt la campagne April, Framasoft et Quadrature, mais là c'est des petits chiots. Des petits chiots tout grassouillets, tout fripés, qui arrivent même pas à marcher. Si vous aimez les petits chiots, allez donc faire un petit tour là-dessus. On va enchaîner avant de parler donc de Dolibar et du Dev Camp qui va se dérouler à Kawenga courant avril, avec encore un petit peu de musique par les Minouche Nawak, extrait de cet album Mauvaise Graine, dont on se demande si la photo qui illustre la pochette n'a pas été prise dans une Boris Sevenol, car je croirais reconnaître ces murs en pierre d'ardoise et cette gouttière avec ce bout de lierre qui pousse. J'ai déjà dû la voir quelque part aux alentours de Sainte-Croix-Vallée française, allez savoir.
Oui, il y a des chevals dans le Pestacle, en Creative Commons d'ailleurs, by NCSA.
Y a des chevals dans le Pestacle, la mi-temps des intermittents, la peau des faiseurs de miracles, allez, venez vous tous les gens. Y a des chevals dans le Pestacle. De vos dieux, oulo, 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 oulo. Formaté de merde qui se prennent au sérieux. Ta vie n'est-elle qu'un choix d'acrimonieux? Oulo, 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 oulo. Y'a des chats dans le Pestacle, mi-temps des intermittents, la peau des pesants de miracle, allez, bien écoute tous les gens. Trop longtemps qu'on nous les berne. Oulo, 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 oulo. Leurs mains puent la crasse sous leurs yeux les cernes. La note font culture bien terne. Oulo, 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 oulo. Y'a des chevals dans le Pestacle, la mi-temps, les intermittents, la peau des faiseurs de miracles, allez, viens debout tous les gens. Éteindre leur lugubre.
Ouais, ils aiment les grosses guitares. Hein. Ils aiment bien les grosses guitares. Et cette chanson, s'ils l'avaient écrite cette année, ils l'auraient appelée « Il y a du cheval dans les lasagnes ». Et non peut-être. Pas dans le pestacle. Voilà, donc c'était les Minouches Nawak, extrait de l'album de 2007, « Mauvaise graine ». Eh bien, maintenant, on va parler de Dolibar, qui est un ERP et un CRM, on va dire un logiciel moderne de gestion de votre activité professionnelle ou associative, qui fait contact, facture, commande, stock, agenda, etc. Un logiciel libre, gratuit, conçu pour les petites entreprises, auto-entrepreneurs ou associations, qu'on peut installer comme une application autonome ou en ligne sur un serveur mutualisé ou dédié afin d'y accéder depuis n'importe où. Également disponible comme solution prête à l'emploi dans des services cloud. Et on en parle puisque ce sera du 19 au 21 avril qu'aura lieu à Montpellier, à Kawenga, eh bien le DevCamp qui est l'occasion de faire un petit point, un petit bilan. Et donc Jean-François Ferré et Florian Henry sont deux des organisateurs de ce DevCamp, j'allais dire de cette journée. Non, ça fera
un
trois
week-end.
Jours.
Tout un
week-end qui démarrera donc à 14h et qui sera l'occasion, j'imagine, pour ceux qui à la fois, participent à ce logiciel en tant que développeurs, etc., de se réunir et de papoter et tout ça.
Oui.
Mais aussi pour le plus grand public de venir voir qu'est-ce que c'est, etc., puisqu'il y aura pas mal d'interventions avec des retours d'expérience aussi, des présentations.
On espère.
Voilà, on espère, oui.
On espère voir un petit peu de public lors de ce week-end. Donc le but, c'est d'organiser un peu, de structurer, parce que Dolibar, il y a une association qui est derrière. Donc on va essayer de se structurer un peu plus correctement, et aussi voir faire un point sur les fonctionnalités. On espère avoir des retours utilisateurs. Il y aura des présentations sur le logiciel. Voilà.
C'est vrai qu'à la base, le DevCamp, c'est quelque chose qui est par des développeurs pour des développeurs. Maintenant, on a vraiment l'envie que cette manifestation soit aussi ouverte aux utilisateurs, qui puissent passer, faire un coucou, nous dire voilà, moi j'aime bien pour ça ou j'aime pas pour ça, et qu'on puisse prendre en compte un petit peu tous les desiderata. L'idée, ça va pas être de coder à la volée les besoins de tous les gens qui vont nous faire un coucou. Ça va être déjà leur expliquer comment est-ce que nous on fonctionne, quels sont les outils qui sont mis à leur disposition pour qu'ils puissent nous faire leurs demandes spécifiques. Et de leur expliquer, aujourd'hui, Dolibar, c'est tout un écosystème. Il y a plusieurs outils qui nous permettent de travailler. Il y a une association, il y a une myriade de développeurs autour. Comment est-ce qu'on s'organise, ou comment est-ce qu'on s'organise pas, et comment est-ce qu'on va s'organiser? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que ce produit puisse avancer correctement dans la bonne voie? On a beaucoup entendu dire que des développeurs dans leur coin, et d'ailleurs, c'était dit dans l'interview tout à l'heure, font des choses pour eux et oublient un petit peu l'utilisateur. Donc l'idée, c'est de réussir à revenir vers l'utilisateur. Maintenant, un DevCamp, c'est, comme je le disais tout à l'heure, une manifestation pour et par des développeurs, mais qui évidemment a pour but d'amener à une plus grande lisibilité et une meilleure utilisation de l'outil par les utilisateurs finaux.
Alors historiquement, Dolibar, ça a quelques années, une dizaine d'années.
2003.
C'est un projet qui était né où ?
C'est né en France. En 2003, un développeur a décidé de créer, alors malheureusement je n'ai plus son nom en tête.
Rodolphe Quietville.
Voilà, a décidé de créer ce projet, un ERP libre. Et en 2003, il a eu une récompense qui était le meilleur ERP libre de l'année. Ce projet a continué à exister. Rodolphe a décidé de se séparer, est parti du projet. Et il y a toute une bande qui s'est mise autour et qui a continué à faire vivre le projet. Aujourd'hui, il y a un chef de projet technique qui est Laurent Destailleur qui maintient le code grâce au repository Git sur GitHub et qui intègre les fonctionnalités qui sont proposées par différents développeurs et personnes qui sont autour de ça.
Un logiciel qui a quand même qui s'est assez étendu, puisqu'il y a un dolibar.org, il y a un .es, un .de. À venir, il y aura des versions italiennes, portugaises ou hollandaises. Quelle est la taille de la communauté des gens qui contribuent à ce projet aujourd'hui ?
Pas de chiffres en tête, c'est un peu dur à quantifier. Je sais pas, sur le forum, il faudrait regarder le nombre d'utilisateurs.
La difficulté, c'est de quantifier combien on est d'intervenants sur, sur cet outil, puisque aujourd'hui la structure qui porte le projet, c'est l'association française. On n'a pas réellement d'idée. Ce qu'on sait, c'est que Dolibar a été adopté à l'international, parce qu'il est prévu pour être international, sur plein de sujets. Aujourd'hui, on a des développeurs indiens qui débarquent sur le projet en disant « Coucou, moi je veux participer, je veux améliorer les trucs. » Donc pourquoi pas demain, Dolibar indien. On a des centres qui sont au Sri Lanka, d'autres qui sont au Venezuela. Chacun, c'est la force du logiciel libre. Chacun a pris le Dolibar tel qu'il était et puis a essayé de faire en sorte que dans l'internationalisation du produit, on puisse intégrer un maximum de possibilités.
En Amérique du Sud, Dolibar est assez présent aussi.
Oui, l'Amérique du Sud, qui a certains pays où il y a une volonté politique, on va dire, de favoriser le déploiement d'outils libres. Et puis, c'est vrai que quand on pense à, je sais pas moi, un autre type de logiciel qui soit plus dédié à une seule tâche, internationaliser le logiciel, ça revient souvent juste à traduire finalement l'interface utilisateur. Là, comme ça gère aussi la facturation, la comptabilité, ce genre de choses, il y a des règles comptables qui ne sont pas nécessairement les mêmes dans chaque pays, pour établir une facture, etc. etc. Donc ça pose des questions plus vastes que je parlais d'un traitement texte, ça pourrait être autre chose.
Oui, tout à fait, mais c'est des axes de travaux qui sont en cours. Il y a des Canadiens qui se sont dit tiens, moi je veux mettre Dolibar au Canada. Il faut savoir que le système de taxes au Canada, c'est quelque chose de complètement fou. Et le fait de l'implémenter dans un ERP, ça n'a rien de simple. Aujourd'hui en France, on avait la TVA, de temps en temps on parle de la DEE. Au Canada, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Donc, les Canadiens qui ont repris Dolibar ont essayé de faire en sorte que leur Dolibar soit compatible avec leur système de taxes.
Alors, lors de ce DevCamp, pour l'instant, il y aura pas mal de gens. Il y aura des gens qui viendront de Paris, de Lyon. Est-ce que tous les intervenants ont confirmé leur venue
Pas encore, non. Non, on laisse jusqu'au 1er avril. Ouais.
Voilà, pour s'inscrire, c'est la date butoir.
Il y a une page sur le wiki. Il faut préalablement créer un compte et demander son activation. Ça, on s'en excuse, mais on est victime d'une vague de spam.
Ah.
Donc on est obligé de procéder comme ça. Donc oui, les chiffres définitifs, on va attendre un petit peu de communiquer sur l'événement.
La capacité de Kawenga, elle n'est pas infinie. Il faut peut-être effectivement s'inscrire.
Peut-être pas c'est mieux.
Oui, c'est mieux. C'est clairement préconisé. On va attendre effectivement d'avoir plus de retours. Aujourd'hui, il y a une petite dizaine de personnes qui se sont montrées motivées. Il faut savoir que cet événement aujourd'hui, alors évidemment, il se déroule en France, à Montpellier, à Kawenga. Si demain, il y a les Espagnols ou les Italiens qui veulent venir, ils sont évidemment les bienvenus.
Bien entendu.
Oui, pourquoi pas faire des rencontres mondiales de Dolibar.
On va se concentrer sur les RMLL en 2014.
Les rencontres mondiales du logiciel libre à Montpellier.
Pendant les RMLL.
Pourquoi pas.
Avec plaisir.
Alors on peut peut-être juste comme ça citer des gens qui sont pressentis pour être là et peut-être détailler un petit peu leur rôle. Il y aura peut-être Laurent Détailleur qui lui est de Royal Malmaison à Paris. Quel est son rôle dans la communauté?
C'est le président de l'association et le project leader. Donc c'est lui qui s'occupe de rapatrier les
paquets,
les différents commits. Non, c'est ouais. Les commits.
Ah oui, les commits.
Dans le développement web, c'est-à-dire les morceaux de code qui apportent des fonctionnalités ou qui corrigent des petites erreurs.
Donc lui, c'est sûr qu'il sera là du coup.
Ah oui, lui, il a confirmé sa venue et voilà. D'ailleurs, il y aura l'assemblée générale de l'association qui se tiendra aussi à l'occasion de ce DevCamp.
D'accord. Donc il y aura Florian Henry qui est là en face de nous, donc on va pas lui poser la question s'il sera là. Il y aura aussi un Lyonnais, Charles-François Benck,
qui est un développeur prestataire aussi sur la région lyonnaise.
Et puis Maxime Collas.
Oui, de ATM Consulting avec Valence. Avec son comparse développeur, toute jeune start-up qui s'est lancée dans l'aventure Dolibar. Alors oui, Dolibar, c'est un produit libre et gratuit. Maintenant, il y a des entreprises qui ont envie d'aller un peu plus loin avec et qui demandent à des intégrateurs de compléter les fonctionnalités en échange de financement.
Voilà, son comparse, c'est Alexis Algou, si je ne m'abuse. Et puis, il y aura Raphaël Dourceneau qui lui vient de Pau.
Qui est aussi un développeur tout à fait. Contributeur.
Et puis enfin, pour l'instant, de Sarrebourg, dans le 57, il y aura Jean Heimberger qui sera aussi là.
Oui, c'est le secrétaire de l'association et aussi un contributeur qui avait réalisé des modules, parce que Dolibar est aussi modulaire.
Ah, les fameux modules dont nous parlions tout à l'heure en antenne.
On a eu un petit débat sur...
Il y avait un petit débat sur est-ce que l'accès aux sources qui est dépendant de l'achat du module fait que ce soit vraiment libre ou etc. Mais on manque un peu d'argument pour trancher cette question.
Et ça mériterait un peu de temps quand même.
Voilà, donc on le rappelle, ça se passe à Kawenga du 19 au 21 avril, ça démarrera donc le 19 à 14h, qu'on se le dise. On retrouve le lien vers le wiki, wiki.dolibar.org, Dolibar c'est D-O-L-I-B-A-2-R. On retrouve le lien complet sur la page divergence-fm.org, sur la page de cette 160e divergence numérique. On souhaite qu'il y ait pas mal de gens qui viennent s'intéresser à ce logiciel. Avons-nous le temps de détailler quelques nouvelles de l'agenda du libre, Pascal ?
Possible. Alors, vendredi, 1er mars déjà, c'est les points libres justement à Kawenga. Donc, 21 boulevard Louis Blanc. Ensuite, là, j'étais sur la page de Parle Track aussi, et en même temps, tellement d'onglets ouverts.
Ah bah oui.
Donc, dans l'actualité, il faut aller sur montpellier.fr où vous avez l'actualité locale des différents points. On peut noter l'install party du 16 mars à la maison des jeunes et de la culture rue de la Moutte. Ça c'est à Castelnau-le-Lez. Après c'est agendadulibre.org pour un peu plus loin
pour la France.
Pour la France, un peu plus loin de Montpellier.
L'agenda du libre.ch est toujours aussi désert. C'est quand même.
Il n'y a plus rien en Suisse.
Enfin, il ne se passe pas grand-chose. .be, il n'était même plus en ligne la semaine dernière.
Le domaine est revenu.
Il est revenu. Il est tout beau et tout,
tout
vide.
Tout chaud.
Et puis .qc.ca pour nos amis du Québec, où il se passe régulièrement des petites choses du côté de Montréal. En l'occurrence, il y a quelques petits rendez-vous. Donc vous avez noté vos rendez-vous.
Puis libre, en fait, aussi, à ne pas manquer, puisque c'est maintenant que ça démarre.
Et donc, on va se quitter là. En vous rappelant de rester libre pendant toute la semaine. On se quitte avec toujours Mauvaise Graine, les Minouche Nawak, Mauvaise Graine, leur album de 2007 et ce titre Mascarade.
Ils sont dangereux.
Mais ils sont pas dangereux.
Non plus.
C'était super facile, même si c'est nul. C'est sous licence Creative Commons by NCSA. D'ici là, on vous souhaite une belle semaine de rester libre. Et on se retrouvera donc dans une semaine, hein, il a dit, de garçon, il a dit.
À la semaine prochaine.
Salut. Merci. Restez et à
libre.
Très bientôt.
Merci.
Devant des abrutis qui veulent que la peur dirige l'autocratie.